Et maintenant, nous vous proposons de suivre Casser les murs, bâtir des ponts, unité des chrétiens. Où en est-on 60 ans après une conférence de l'abbé Ernie Sostin enregistrée à l'occasion d'un cycle de conférences Vatican II, 60 ans après, célébrons l'espérance organisée à la paroisse Saint-Pierre de l'Océan. Nous écoutons l'abbé Ernie Sostin.
Aujourd'hui, c'est mon tour. Le thème choisi pour moi, ça ressemble à un résumé. Mais demain encore, donc il y a une autre conférence. C'est casser les murs, bâtir des ponts, unité des chrétiens. Où en est-on 60 ans après? Alors, pour commencer, moi, je commence avec certaines questions, surtout des pères conciliaires, sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Que pense l'Église de l'homme? Que signifie la souffrance, le mal, la mort qui subsiste malgré tant de progrès? Quelle orientation semble devoir être proposée pour l'édification de la société contemporaine? Que peut apporter l'homme à la société? Que peut-il en attendre? Ce sont des questions qui demandent une réponse. Et telles sont les interrogations des pères conciliaires lors de l'ouverture de la troisième session du Concile Vatican II. Nous devons souligner que quelques années seulement avant que n'arrive cette idée de convoquer un concile, le monde, dans les années 60, a connu de grands problèmes. Et l'Église, de son côté, ne pouvait pas rester passive, tant sur ses problèmes internes que sur les problèmes sociaux, politiques et économiques. Souvenons-nous, c'était l'époque de la construction du mur de Berlin en 1961. Des problèmes des pays de l'Amérique latine qui subissaient l'injustice que Michel il a souligné hier. De la crise entre les États-Unis et Cuba en 1963. Et beaucoup d'autres soucis dans le monde. C'était une période bouleversante où l'Église devait se positionner et se questionner sur sa présence et sa vocation dans le monde. Alors, que dit l'Église sur toutes ces dérives? Le pape Paul VI, dans la troisième session du Concile, donne une réponse. L'Église du Concile a regardé le monde un peu comme Dieu lui-même, après la création, a regardé son œuvre admirable et immense. Dieu, dit l'Écriture, vit que toutes les choses qu'il avait créées étaient bonnes. L'Église a voulu aujourd'hui considérer le monde dans toutes ses expressions, cosmiques, humaines, historiques, culturelles et sociales, etc. Et il a voulu considérer toutes choses avec une immense admiration, avec un grand respect, avec une sympathie maternelle, avec un amour généreux. Non pas que l'Église ait fermé les yeux sur les maux de l'homme, sur le péché qui est la ruine fondamentale, la mort et aussi la misère, la faim, la souffrance, la discorde, la guerre, l'ignorance, la caducité de vie et des choses et de l'homme multiple et toujours menaçante. Non, elle n'a pas fermé les yeux sur ces maux, mais elle les a regardés avec un amour plus grand, comme le médecin regarde le malade, comme le Samaritain a regardé le malheureux abandonné à moitié mort sur la route de Jéricho. Fin de citation. Voilà donc le contexte. Le Concile a porté sur l'homme un regard de sympathie, volontairement optimiste. Car la religion catholique n'est pas inutile à l'homme. La religion catholique est pour l'humanité. En un certain sens, elle est la vie de l'humanité. Le christianisme, en effet, ne peut pas se sentir étranger au monde, quel que soit l'aspect sous lequel celui-ci se présente et quelle que soit l'attitude qu'il adopte à l'égard de la religion catholique. Le pape Paul VI définit la mission du christianisme dans le monde comme œuvre d'amitié, de promotion et de salut tout à la fois. 60 ans après, le Concile Vatican II fait encore l'objet de nombreux débats, tant dans le monde ecclésiastique que dans les masses médias. Pour certains, c'est un événement qui a mis fin à la tradition rigoureuse de l'Église. Pour d'autres, c'est un événement qui évoque la continuité de l'histoire de l'Église. Tandis que le Concile serait, pour celui qui l'a invoqué, le pape Jean XXIII, un nouveau printemps et une joie pour l'Église. Une fenêtre ouverte pour tous ceux qui partagent la foi en Jésus-Christ. Le cardinal Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, de son côté, invite tous à une redécouverte du Concile à travers une nouvelle méthode d'interprétation pour bien distinguer ce que le cardinal français Paul Poupa a souligné, ce que dit le Concile, ce qui a été dit au Concile et ce qu'on a écrit sur le Concile. Fin de citation. L'une des premières tâches du Concile est celle de conserver le dépôt sacré de la doctrine chrétienne et de l'adapter d'une façon plus authentique et efficace aux besoins de notre temps. Par conséquent, avec le Concile Vatican II, des nouvelles voies sont ouvertes à l'apostolat dans l'Église. Et ceux qui se sont séparés du siège apostolique trouvent un accès à l'unité que le Christ demande à son Père et propose à tous ceux qui veulent le suivre. L'Église, avec le Concile et selon la logique du pape Jean XXIII, doit être le remède de la miséricorde, au lieu d'adopter une sévérité qui repousse ses enfants. Pour mener à bien cette tâche, l'Église doit fixer son regard sur le Christ, qui est son unique espérance et sa fin. En effet, seule l'imitation du Christ et l'union mystique avec lui permettront à l'Église de répondre d'une manière adaptée à chaque génération le sens de la vie. Et maintenant, nous arrivons sur la mission de l'Église et son dialogue avec le monde. Rendre explicite le discours sur Dieu est l'un des engagements théologiques pour le monde actuel que le Concile Vatican II veut actualiser. Un Dieu qui se révèle est celui qui se rend accessible à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Le Concile, dans tous ses aspects, ne prétend pas être un discours purement apologétique, ni une compréhension exclusivement rationnelle de Dieu, mais plutôt un accompagnement qui permettra à chaque homme et chaque femme de se transcender lui-même, de chercher un sens ultime et transcendant à tout ce qui l'entoure. Parler de Dieu d'une telle manière, de ce fait, aidera probablement ceux qui s'interrogent sur l'existence de Dieu, même ceux qui croient déjà en Dieu, à trouver leur raison d'être. Voilà le rôle de l'Église dans le monde. Par suite, le premier service que l'Église peut rendre aux hommes, c'est de les aider à prendre conscience de ce qu'ils sont, de leur grandeur et des valeurs qu'ils portent en eux, et finalement de leur dimension spirituelle et de leur vocation d'éternité. L'Église et le monde à la lumière du Concile ne sont pas deux entités séparées, même si l'un doit être un guide pour l'autre, sans lui imposer des solutions toutes faites. Le problème de l'un doit être aussi la préoccupation de l'autre, en respectant son autonomie. L'Église existe dans le monde comme signe du royaume. Elle participe à la vie du monde pour le transformer en corps du Christ. L'Église, selon le Concile, par ses ministères et son statut missionnaire, a le devoir de réaliser la communion entre Dieu et le monde. Le souci de ce concile est celui-ci: que l'Église soit un lieu d'accueil de tous, qu'ils soient pécheurs ou repentis. Le lien profond entre l'Église et le monde, avec ses problèmes selon la logique du concile, est vu sous deux aspects. D'un côté, la relation de ces deux entités n'est pas d'ordre moral. L'Église ne peut pas opposer au monde des règles morales comme solution à tous ces problèmes quotidiens qui peuvent devenir un fardeau. Toutefois, il ne faut pas oublier que le choix moral s'impose à tout homme. Il manifeste la profondeur de la conscience, dit le pape Paul VI. L'objectif de l'Église, en effet, consiste à appeler tous les hommes à participer à l'amour et à la communion avec Dieu. De notre côté, l'Église doit apporter son soutien et orienter le monde vers Dieu. En aucun cas, elle ne peut rejeter quiconque. Elle doit embrasser même ceux qui l'abandonnent. Telle est la fierté d'être chrétien et qui se manifeste en une triple responsabilité. Notre responsabilité, dit le pape Paul VI, notre responsabilité devant Dieu lui-même, à qui nous devons compte d'un tel bienfait, notre responsabilité à l'égard de l'Église, à qui nous devons transmettre avec cette assurance le désir et la ferme volonté de sauvegarder son trésor, notre responsabilité enfin envers les frères encore séparés de nous et envers le monde entier. Fin de citation. Et maintenant, nous arrivons à l'unité des chrétiens. La cause de l'unité des chrétiens était chère au pape Jean-Paul XXIII et par la suite au pape Paul VI, qui a évoqué l'unité des chrétiens comme l'un des quatre objectifs qu'il assignait au concile. D'abord, il faut souligner que l'écuménisme n'a pas été inventé par le concile Vatican II. Il a été instauré à Édimbourg, capitale de l'Écosse, en 1910, par le patriarche grec orthodoxe Germain V de Constantinople, l'évêque anglican américain Charles Brent, le pasteur néerlandais Willem Wissé, et le cardinal français Yves Congar et tant d'autres. L'Église catholique a été très méfiante vis-à-vis du mouvement écuménique. En 1928, le pape Pie XI interdit aux chrétiens catholiques de participer à ce mouvement. Cependant, certains théologiens catholiques ne cessaient de promouvoir l'unité des chrétiens, malgré les inconvénients, tels que le père Yves-Marie Congar, qui publia la première synthèse théologique sur l'écuménisme, Chrétiens désunis, en 1937, et l'abbé Wilbrand, qui, en 1955, publia une histoire doctrinale du mouvement écuménique, et beaucoup d'autres encore. Ainsi, ce fut le jour de la convocation du Concile Vatican II, lors de la clôture de la semaine de prière pour l'unité en 1959, que le pape Jean XXIII invoqua publiquement l'unité des chrétiens. Promulgué le 21 novembre 1964, le décret sur l'écuménisme présente les principes catholiques de l'écuménisme, tels que rénovation de l'Église, conversion du cœur, prière en commun, connaissance réciproque, formation, méthode pour exposer la doctrine en tenant compte d'une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique et la collaboration avec les frères des autres églises chrétiennes. Le décret s'achève enfin sur la conscience que la réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ dépasse les forces humaines et sur l'espérance qui réside dans la prière du Christ, dans l'amour du Père et la puissance du Saint-Esprit. Tout cela peut se réaliser si nous restons fidèles à l'Évangile du Christ, car l'Évangile, dit le pape Paul VI, est lumière, Il est nouveauté, il est énergie, il est régénération, il est salut. Nous sommes appelés à être des témoins de la miséricorde de Dieu, tout en acceptant les autres tels qu'ils sont, avec leurs mœurs, leurs coutumes, leur religion et leur culture. Et maintenant, nous sommes arrivés entre la relation entre la culture et la foi. À propos de la culture, le Concile Vatican II apporte un nouveau regard sur la société et souligne le lien étroit qui existe entre la culture, l'évangélisation et la mission de l'Église. La culture est l'un des éléments les plus importants de la catholicité de l'Église. La catholicité de l'Église se manifeste dans le pluralisme culturel. Nous ne pouvons pas parler de celle-ci si elle reste enfermée dans une particularité de culture. Si le message du Christ ne s'identifie pas à une particularité de culture, mais la transcende, alors l'Église de son côté n'a pas une culture particulière, considérée comme la source de toutes les cultures. L'Église, selon le pape Jean XXIII, ne s'identifie à aucune culture, même pas à la culture occidentale, à laquelle elle a été liée par son histoire. Fin de citation. Cependant, les cultures doivent se laisser évangéliser, car les chrétiens doivent avoir une perception mentale de la culture comme réalité humaine à évangéliser. Saint Jean-Paul II, dans sa réflexion sur le lien entre la foi et la culture, affirme « La synthèse entre culture et foi n'est pas seulement une exigence de la culture, mais aussi de la foi. Une foi qui ne devient pas culture est une foi qui n'est pas pleinement accueillie, entièrement pensée et fidèlement vécue. » Fin de citation. La culture, en effet, joue un grand rôle dans le salut des hommes. Elle peut être considérée comme une médiation qui permet à tous les hommes de rencontrer Dieu. Dans ce cas, la culture a un caractère anthropologique et théologique. C'est à partir de Dieu qu'on peut comprendre l'homme et le cosmos. Pour avoir une compréhension de l'homme, il faut prendre Dieu comme point de départ. L'homme, à partir de son expérience, découvre la grandeur de Dieu. La rencontre entre la culture et la foi montre que la mission de l'Église se manifeste dans sa diversité. L'importance du dialogue. Une société multiculturelle et multireligieuse comme la nôtre exige toujours une éducation, une formation plus ouverte et hospitalière envers les autres, tout en créant un monde plus fraternel, basé sur la tolérance et le respect mutuel. Dans son contexte interreligieux et culturel, en parlant de la Torah, de l'Évangile et du Coran, le dialogue, pour être le moteur de l'évangélisation, doit s'orienter vers le respect et la bienveillance. Il est aussi pour toutes les communautés un enrichissement réciproque dans l'obéissance à la vérité et dans le respect de la liberté. Les rapports de l'Église avec les autres religions sont inspirés par un double respect, selon Saint Jean-Paul II. Le respect pour l'homme dans sa quête de réponse aux questions les plus profondes de sa vie et le respect pour l'action de l'Esprit dans l'homme. Les éléments qui constituent le dialogue sont multiples. Cependant, parmi ceux-ci, nous pouvons en souligner deux. D'une part, une attention vers l'autre, c'est-à-dire manifester un intérêt pour son histoire et sa culture. D'autre part, être disponible pour l'écouter. Dans ce cas, dialoguer signifie reconnaître et respecter l'autre dans sa diversité, comme une personne différente de nous, de par son origine, sa religion, sa culture et ses coutumes. Le dialogue est en effet une expérience d'échange commun qui favorise l'unité dans la diversité. Le dialogue dans le mouvement œcuménique n'est pas uniquement une affaire intellectuelle. Il n'est pas une compromission ni une simple raison de commodité, mais plutôt un style de vie, un chemin de foi dans une recherche de la vérité. Ainsi, grâce au dialogue, les croyants peuvent expérimenter leur propre dignité, la liberté de marcher ensemble, de s'écouter, de s'interroger et de donner des réponses adéquates. Le pape Paul VI, dans son encyclique Ecclesiam Soam, a exprimé sa conviction en démontrant que grâce au dialogue, l'Église est elle-même appelée à devenir une conversation pour les autres, conforme à l'héritage reçu du Christ. Il affirme que l'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole. L'Église se fait message. L'Église se fait conversation. Fin de citation. L'écuménisme, en effet, n'est pas une affaire humaine. Dieu est le protagoniste de l'unité des chrétiens. Nous, chrétiens, nous ne faisons pas l'écuménisme et nous ne pouvons pas non plus l'imposer. L'unité est d'abord un don de l'Esprit-Saint. Elle ne vient pas de notre volonté, mais de Dieu. C'est Jésus lui-même qui a sollicité auprès de son Père l'unité en faveur de ses disciples et pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Jean, chapitre 17. C'est Jésus qui mènera à son terme l'unité que nous recherchons. Grâce à ce concile, en effet, l'Église a pu faire un dépassement d'elle-même et devient plus consciente de sa mission dans le monde. Elle retrouve sa vocation, elle ouvre ses portes et devient la maison dans laquelle tous peuvent entrer et se sentir à leur aise en conservant leur culture et leurs traditions, pourvu qu'elles ne soient pas en opposition avec l'Évangile. Merci.
Vous venez d'entendre « Casser les murs, bâtir des ponts, unité des chrétiens, où en est-on 60 ans après ?» Une conférence présentée par l'abbé Ernest Austin, enregistrée à l'occasion d'un cycle de conférences « Vatican II, 60 ans après, célébrons l'espérance » organisée par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan en septembre 2025.